Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Heures passées de quelques secondes, un très grand bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission littéraire, c'est Wagon Livre, nous sommes ensemble jusqu'à midi et je vais vous présenter d'ici quelques secondes, je cite, cet extrait de la préface de son recueil de poèmes, il est poète, marin en cardigan de l'Allier, primé du Morvan, étonnant 40e rugissant, ça c'est sous la plume de Laurent Vignat, mais l'auteur qui nous accompagne aujourd'hui, et ce n'est pas son premier passage dans Wagon Livre sur Radion, c'est Loïc Le Goff que je retrouve avec plaisir. Bonjour Loïc Le Goff.
Bonjour, moi aussi je vous retrouve avec plaisir.
Et merci Loïc Le Goff. Alors, je vous présente un peu à nos auditrices et auditeurs. Loïc Le Goff, vous êtes né dans le Morbihan, vous avez grandi à Saint-Malo et après des études littéraires, vous vous êtes tourné vers le journalisme et la publicité en tant que concepteur-rédacteur. Et puis comme vous aviez, alors vous l'avez raconté dans un précédent numéro de Wagon Livre, votre papa s'était engagé en Espagne dans les brigades internationales. Et vous, vous avez aussi des engagements, des idéaux, en tout cas un goût prononcé pour la militance sociale qui vous a conduit à vous engager dans un service civil de 3 ans chez Emmaüs. Ensuite, vous avez été responsable des communautés Emmaüs, notamment dans la Nièvre, c'est là où vous découvrez le Morvan, ainsi que ce département de la Nièvre. Vous irez ensuite beaucoup plus loin, je crois, à Bordeaux.
À Toulouse.
À Toulouse, pardon. En 2009, vous avez fait paraître un ouvrage, alors publié aux éditions Bayard et intitulé « Compagnons de l'abbé Pierre », avec une préface de Lambert Wilson. C'était, je crois, à l'occasion d'un anniversaire.
Le 30e anniversaire.
Et puis, ce livre a connu aussi un grand destin chez France Loisirs dès 2020. Alors après, je vous ai rencontré et connu, grâce à vos publications, dans cette magnifique maison d'édition bourguignonne, malheureusement disparue. Qui s'appelait les éditions de l'Armançon, qu'avait créé notre ami commun Gérard Gauthier. Et je vous avais reçu dans Wagon Livre en 2016, Loïc.
Déjà.
Oui, pour Rouge Campagne. Il s'agissait d'un meurtre, de plusieurs meurtres, dans un petit village du Morvan. Vous avez ensuite fait paraître Noire Mémoire, toujours à l'Armançon. Et puis, il y a maintenant 3 ans, c'était en 2022, vous vous êtes fait remarquer par le prix littéraire du Morvan Henri Perruchot qui vous a récompensé, et à juste titre, pour un superbe roman historique et social intitulé Le Grand Détour, paru aux éditions Mutine. Mentionnons aussi Futilité, en 2024 aux éditions Mutine avec une préface de Laurent Vignat. Alors ce sont des petits textes poétiques, Loïc.
Poésie, c'est peut-être pas le terme que je choisirais.
Sur des fantaisies verbales.
Voilà.
Alors, futile ou utile, on ne sait pas. Voilà. Hein, le F, c'est voilà. F, utilité.
Vous choisirez.
Justement, intitulé « Égocentrisme royaliste », « Le moi est mort, vive le moi ». Et puis, un autre qui m'a plu, page 39, « Solidarité ». Les bigoudins portent des bérets basques. Et un petit dernier, c'est page suivante que j'ai beaucoup apprécié, c'est Égocentrisme 2, je voudrais être toi pour me dire je t'aime. Mais le roman qui va nous occuper aujourd'hui, c'est À la fortune du pauvre, paru au début de cette année, oui, aux éditions Mutine. Maison d'édition associative créée par Marie-Thérèse Mutin, maison établie en Côte d'Or.
Qui va fêter ses 30 ans.
Effectivement. Un petit mot peut-être sur cette maison d'édition et sur...
Elle a été fondée par Marie-Thérèse Mutinte, vous venez de le dire. C'est une maison qui a la particularité d'être associative, puisqu'il y a des adhérents, je crois qu'il y a 150 adhérents actuellement qui payent une cotisation, et cette cotisation donc leur donne droit à 3 ouvrages par an. Mais bon, au-delà de cette diffusion auprès des membres de l'association, il y a aussi une diffusion commerciale dans les librairies.
En rappelant aussi que les ouvrages peuvent s'acheter sur le site des éditions Mutine, voilà, un site, voilà, blog, oui. Site marchand, oui. Également. Alors, parlons de « À la fortune du pauvre », sorti cette année. Vous mettez en scène des gens qui font la manche. On dirait quoi, des SDF, des clochards? Quels sont les termes adéquats?
Autrefois, on disait les clochards. Le terme a évolué jusqu'à devenir des zonards. Aujourd'hui, la sémantique a touché même le monde des exclus. Mais bon, disons des SDF, quoi. Ça sera plus simple.
Alors, la question reste d'actualité, parce que le problème de la pauvreté en France, il y a dans notre pays des travailleurs pauvres, des personnes qui travaillent, qui n'ont pas de logement.
Qui dorment dans leur voiture quand ils ont une voiture.
Oui. Et ça, vous y restez toujours très sensible.
Oui, absolument. Surtout que, depuis longtemps, on nous avait promis que la pauvreté, l'extrême pauvreté aurait une fin. Il y a eu des politiques sociales qui ont voulu y mettre un terme. Il n'y a jamais eu de réussite en ce domaine, la preuve.
Et pourquoi donc ?
Parce que lorsqu'on crée un problème, lorsqu'on résout un problème, il y en a un autre qui intervient. Hein. Je crois que c'est un des problèmes de notre société. Ce qu'on appelait les clochards autrefois, qui étaient souvent des gens qui eux-mêmes rejetaient la société, bon, qui pour des raisons comme l'alcoolisme se retrouvaient à la rue, ont été remplacés dans les années 80 par... ce qu'on a appelé les nouveaux pauvres. Ensuite, il y a eu les jeunes exclus. Ensuite, il y a eu, à la fin des années 80, l'apparition des femmes à la rue, phénomène qui n'existait pas autrefois. La mise en place du RMI et puis du RSA avec Martin Hirsch a fait que des problèmes ont été résolus. Il y a eu des politiques sociales d'accueil et des politiques sociales de logement. Mais aujourd'hui, on voit arriver sur notre territoire des jeunes immigrés qui, eux, aujourd'hui, occupent l'espace qui était occupé autrefois par des SDF, quoi, et qui occupent les centres d'accueil. Donc à chaque fois, on voit arriver d'autres formes d'exclusion, d'autres formes d'extrême pauvreté. Et le problème semble être un puissant fond, quoi. C'est le mythe de Sisyphe. On pousse les solutions vers le sommet et ça redescend. Et voilà.
Alors, les problèmes économiques et sociaux sont nombreux. On a même l'impression qu'ils commencent à gangréner de manière dangereuse la société. Oui. Problèmes de sécurité, problèmes d'ordre, problèmes de discipline. Coût aussi, parce que ça coûte cher. Alors, il y a certaines personnes, et notamment des milieux professionnels, qui ne parviennent pas à recruter, et pourtant il y a des gens qui cherchent du travail. Certains brandissent la menace de réduire les minima sociaux pour que peut-être on arrête l'assistanat. Alors, je ne sais pas si ce terme d'assistanat est adéquat, ou parler
de
solidarité, effectivement, mais la solidarité nationale a un prix. Alors, le roman À la fortune du pauvre, déjà se situe dans la ville de Moulins, nous sommes dans le département de l'Allier. Alors, c'est une ville que vous connaissez bien.
Pour y habiter, enfin, du moins habiter à proximité, à 15 km de Moulins.
Oui. Alors, c'est une ville de province.
C'est un roman de proximité, comme il y a aujourd'hui une agriculture ou une consommation de proximité. C'est un roman de proximité.
Alors, vous parlez, cette rue est j'allais dire, au cœur du roman, c'est la rue d'Allier. Qu'a-t-elle de particulier ? Est-ce que c'est une rue dans laquelle se retrouvent beaucoup de personnes se livrant à la mendicité ?
Non, absolument pas. Hein. C'est le fruit de mon imagination.
C'est une rue très commerçante.
C'est une rue qui a été très, très commerçante. C'était la... C'était la l'artère commerciale de Moulins pendant très très longtemps. Aujourd'hui, bah, c'est comme dans beaucoup de villes, hein. Il y a un turnover des commerces, ça ouvre, ça ferme. Je pense que l'activité commerciale y est difficile, quoi. Mais quelques commerces subsistent encore, hein, à l'intérieur.
Par conséquent, nous sommes vraiment dans un Moulins contemporain.
Oui,
dans ce roman, hein. On est vraiment dans notre époque actuelle,
absolument.
Avec ses problèmes. Ses bons, ses bons aspects aussi. Alors, le personnage essentiel, au cœur, parce que sans lui, il n'y a pas de roman, s'appelle Dom Pierre, il a un peu plus de 50 ans. Alors, il a une certaine notoriété dans cette rue d'Allier à Moulins, puisqu'il tape la manche un peu tous les jours. D'ailleurs, lui-même dit qu'il est mesuré et courtois. Et ce qui est très beau, c'est les liens sociaux, tout de même, qui peuvent se créer avec un homme qui squatte une maison abandonnée, qu'il a très sommairement aménagée. J'allais dire, il a un chez-lui secret, clandestin. Mais ce qui est beau, tout de même... On peut dire qu'il y a une forme de solidarité de la part des voisins de cette rue d'Allier, qui le considèrent d'ailleurs un peu comme un voisin. C'est joli aussi cette humanité, parce que le roman est plein d'aspects chaleureux, humains, un peu dramatiques et fatals sur la fin, mais on ne va pas trop en dire.
Oui. Dom Pierre est un personnage tel qu'on en voit moins maintenant, c'est vrai. Mais c'est un personnage tel qu'il y en avait autrefois dans toutes les villes, hein, pratiquement. Un personnage... On ne peut même pas dire que c'est un exclu de la société.
On ne connaît pas trop son passé. Il n'a pas de famille, hormis des tombes au cimetière.
Il s'appelle Dom Pierre, parce qu'à Dom Pierre, il y a Dom Pierre... À côté de Moulins, il y a une ville qui s'appelle Dom Pierre-sur-Bèbre. Et il est issu de là-bas, donc ça lui a donné ce surnom, qu'il a gardé, jusqu'à pratiquement oublier son propre nom.
Oui.
Et donc c'est un personnage du lieu qui est intégré quand même à la société, puisque les gens le connaissent, le reconnaissent, les gens l'aident à vivre, plus ou moins bien, qu'à un cas, mais il reste un des personnages de la ville. Quoi, de Moulins. Alors, il y a aussi une particularité, c'est qu'il s'appelle Dom Pierre, et Dom Pierre, c'est une petite ville à côté de Diou. Et Diou, c'est elle, et à côté de Jaligny, c'est les lieux où a vécu René Fallet. Donc... René Fallet, qui aimait beaucoup ce genre de personnage aussi.
Alors, peut-être faut-il rappeler qui est René Fallet, parce qu'il est mort, je crois, en 19... C'est sûr, René Fallet est né en 1927, il est mort en 1983. D'ailleurs, je crois que votre roman va être proposé au prix René Fallet, parce que depuis sa mort...
Non, parce que hélas, j'ai dépassé l'âge.
Ah, il faut avoir un certain âge pour...
Il faut avoir moins de 40 ans, j'en ai que 42.
Alors, je rappelle quelques titres des romans de René Fallet. Banlieue Sud-Est, Le Triporteur, il y a eu Paris au mois d'août, prix interallié, et puis la fameuse La Soupe aux Choux, et n'oublions pas, Le Beaujolais Nouveau est arrivé.
Le Beaujolais Nouveau est arrivé, Les Vieux de la Vieille.
Oui.
Non, mais
alors c'est le pays de René Fallet.
On connaît plus le titre de ses œuvres que le personnage lui-même, hein, que l'auteur lui-même. Hein. Il est bon, mais c'est quelqu'un quand même qui a laissé sa trace dans cette région du Bourbonnais. Hein. Il est autour de Dom Pierre, justement. C'est quelqu'un qui est encore connu, quoi. Même encore une fois, si on connaît plus le nom de ses œuvres que le personnage lui-même. Et il y a tous les ans donc à Jaligny. Près de Dom Pierre, près de Moulins, il y a donc le prix René Fallet qui est décerné à un auteur qui, pour son premier roman, et qui a moins de 40 ans.
Bon, donc vous, ce donc, n'est pas votre premier roman, donc...
J'ai un petit peu plus de 40 ans.
Cher Loïc Le Goff, on va marquer un premier intermède musical dans ce wagon-livre sur Radio. Je rappelle le titre de votre roman « À la fortune du pauvre » aux éditions Mutine qui fête cette année ses 30 ans. On écoute Marine qui nous interprète « Cœur maladroit » et on revient avec vous juste après Loïc Le Goff.
J'ai grillé tous les stops, trop de questions dans ma tête. J'aimerais me poser dans des bras qui m'enveloppent. Je passe toujours à côté, je les cherche en cachette. Dans mon horoscope, moi j'aimerais qu'on me dise mon avenir, qu'on me tease. Que des bonnes surprises et qu'on existe tous les deux. J'ai le cœur maladroit. J'ai pas une main de d'emploi pour une, toi et moi. Mon amour et mon karma. Il paraît que ça viendra. S'il te plaît, m'en veux pas. J'ai le cœur maladroit. Je ne connais pas la suite et mon cœur bat si vite. Mon amour et mon karma. J'ai le cœur maladroit. J'suis plutôt raisonnable, sauf quand j'pète un câble. Merci pour les fleurs laissées sur la table. Et si je les abîme, c'est parce que j'ai le cœur en zone inondable. Mais si jamais tu insistes, je t'emmènerai sur la piste. Sans savoir danser, s'aimer n'est pas sans danger. J'ai le cœur maladroit. J'ai pas une main de d'emploi pour une, toi et moi. Mon amour et mon karma. Il paraît que ça viendra. S'il te plaît, m'en veux pas. J'ai le cœur maladroit. Je ne connais pas la suite et mon cœur bat si vite. Mon amour et mon karma. J'ai le cœur maladroit. Des bras qui pourraient m'envelopper, ça commence à durer, mais tout va recommencer. J'ai le cœur maladroit, j'ai pas le mode d'emploi pour une, toi et moi, mon amour et mon karma. Il paraît que ça viendra, s'il te plaît, m'en veux pas. J'ai le cœur maladroit, je ne connais pas la suite et mon cœur bat si vite, mon amour et mon karma.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
À la fortune du pauvre, c'est le titre du roman de notre invité Loïc Le Goff, roman paru au début de cette année 2025 aux éditions Mutine, les éditions Mutine créées par Marie-Thérèse Mutin, que nous saluons d'ailleurs car je suis certain qu'elle nous écoute, maison d'édition qui fête cette année ses 30 ans. Alors nous parlions de mendicité, de faire la manche, on parlait de ce personnage central de votre roman Dom Pierre, un peu plus de 50 ans, qui d'ailleurs tout de même dit, par rapport à sa situation sociale, peut-être aussi même affective, il y a eu une femme, Brigitte, oui, lointainement, on en reparlera peut-être, oui, mais je cite votre roman, il était convaincu que ce n'était pas lui qui l'avait voulu. Or, vous expliquiez avant la pause musicale, Loïc Le Goff, que jadis il y avait des clochards, mais qui avaient choisi ce mode de vie par
choisi
rejet.
Peut-être pas.
Enfin, qu'il assume, je ne dis pas que Dom Pierre n'assume pas, parce qu'en plus, il a une très belle devise qui est « jamais faillir ». Et il y a l'idée de faillir, l'idée de la chute sociale. Mmh. Il y a une chute aussi physique dans le roman à la fin, je n'en dis pas plus. Clin d'œil aussi, à mon avis. En tout cas, c'est un personnage courtois qui semble plutôt heureux dans le roman. Alors, il est encore plus heureux le jour où il lui arrive quelque chose d'exceptionnel que tout le monde aimerait.
Oui. Dire qu'il est heureux, je n'irai pas jusqu'à là quand même. Hein. Mais il a trouvé dans sa situation d'extrême pauvreté, il a trouvé une base d'un petit peu de confort, hein, un squat dans le centre de Moulins qu'il évite de partager pour qu'il puisse, l'utiliser encore pendant, pendant quelques années. Et il a trouvé quelques revenus avec, avec les gens de la rue d'Allier qui ne l'oublient pas, surtout au moment des grandes fêtes comme Pâques ou Noël. Il est connu. Il a une vie presque sociale, quoi.
Oui, c'est amusant parce que la mercière de 70 ans, qui le voit très souvent dans la rue de l'Allier, à un moment, elle lui dit « Mais vous ne travaillez pas aujourd'hui ?» C'est amusant. Voilà. Et d'ailleurs, lui-même, c'est le narrateur qui dit « La galère l'avait embauché en CDI. »
Voilà. Mais bon, et même s'il a... S'il a une vie sociale, même si il est reconnu, connu et reconnu, bon, il reste quand même dans la précarité, quoi. Avec son ami Le Grinch, ils sont toujours à la merci un peu des événements. Ils attendent des autres quand même un petit peu de confort. Ils savent pas trop qu'est-ce qu'ils vont manger, qu'est-ce qu'ils vont boire. Mais ils existent.
Voilà. En tout cas, vous avez parlé du Grinch, qui est son compagnon d'infortune, avec lequel il partage ce squat au centre de Moulins. Mais le Grinch, alors c'est un vrai Bourbonnais, c'est un gars de Saint-Pourçain. Le Grinch, il est beaucoup moins honnête. Beaucoup moins honnête que notre ami Dom Pierre.
Il est plus débrouillard, disons.
Oui, enfin.
Oui. Mais bon.
Disons qu'il commet des larcins. De temps en temps, il s'adonne au cambriolage, n'hésite pas à,
oui, puis
à prendre des risques. D'ailleurs, il a fait un peu de tôle, tout comme Dom Pierre a fait un peu de prison aussi.
Oui, pas pour les mêmes raisons, mais c'est vrai que le Grinch, il a, je le dis à un moment, quoi, les vases communicants, il connaît. Quoi. C'est-à-dire qu'un portefeuille peut passer d'une poche à une autre. Ça lui permet, et ça leur permet aussi d'assouvir leur passion pour la bonne bouteille, la dite bouteille et la bière en particulier.
Ça treuille et, beaucoup.
Oui. Alors oui, le Grinch, il manie le patois bourbonnais, il y reste fidèle, hein, il aime bien.
Loïc Le Goff, bien sûr, il y a une part de création, d'inventivité, part fictionnelle dans ce roman.
Oui.
Mais, de par votre parcours, vous avez connu ces hommes, ces femmes.
Oui, je me suis attaché quand même à faire revivre, à travers Le Grinch et à travers Dom Pierre, j'ai fait revivre des gens que j'ai connus, même si j'ai condensé plusieurs personnes dans ces deux-là, quoi. Hein. C'est pas copie conforme d'une ou deux personnes que j'ai connues. Mais j'ai puisé chez les uns, chez les autres, des traits de caractère, des épisodes de vie qui m'ont permis de faire un condensé dans ces deux-là d'une multitude que j'ai pu connaître auparavant. Quoi.
Alors, nous avons évoqué Le Grinch, donc ce camarade de Dom Pierre qui, de temps en temps, s'adonne à quelques cambriolages risqués. D'ailleurs, Le Grinch a d'ailleurs, vous dites, fait un séjour dans le pensionnat de la République. Et justement, puisqu'on parle un peu d'argent, de l'argent, tout d'un coup, il en apparaît une très grosse somme. Et peut-être faut-il expliquer. Le gros coup de chance, je rappelle aussi le titre du roman, à la fortune du pauvre.
Ce coup du sort intervient alors que Dom Pierre donc, reçoit de la part d'un personnage important de ce roman, un avocat, qui passe donc auprès de Dom Pierre régulièrement, puis qui se montre généreux en général avec lui et qui lui donne donc un billet de 20 euros que Dom Pierre se dépêche d'aller presque tout dépenser donc dans de la bière, mais comme il lui reste un petit peu de sous sur quelques monnaies sur ce billet, il va au bureau de tabac à côté et là il achète donc un billet de loto
et là formidable chance pour lui, c'est que ce billet de loto va, au bout de quelques jours, s'avérer gagnant, et pas n'importe quelle somme.
Oui, oui. Il va gagner 150 000 euros. Voilà. Alors, cela, c'est la fortune qui fait irruption dans la vie de Dom Pierre, qui était plutôt chaotique jusqu'à là.
Mais une fortune qui va, à ses débuts, l'angoisser. Parce qu'il y a des démarches à effectuer. Or, les démarches administratives, il ne sait pas de quoi il s'agit. Il n'a pas de téléphone portable. Il ne touche pas de RMI. Il ne touche pas de RSA. Il n'a pas de compte en banque.
Voilà. Oui. Donc, il va faire appel, encore une fois, donc, à cet avocat. C'est la personne qui semble le plus apte à l'aider. Donc, pour résoudre ce problème, parce que c'est vrai que pour lui, ça devient un problème, quoi. Et donc, cet avocat va prendre les choses en main et va lui permettre à la fois d'ouvrir un compte en banque, de toucher cet argent. Et là, s'arrêtera d'ailleurs son aide, puisque... Oh, non, il va lui permettre aussi de louer... Un petit
oui.
hôtel.
Alors, il faut expliquer pour quelles raisons Dom Pierre va, avec l'appui de cet avocat, Maître Mailleul de Barentin, qui compte de son état, avocat renommé à Moulins, homosexuel, homme extrêmement, à la fois généreux, extrêmement élégant, qu'on va retrouver d'ailleurs avec un des compagnons de Dom Pierre lors d'une fête au bord de l'Allier. Enfin, c'est très amusant, parce qu'il y a une veine humoristique très forte. Il y a une audace, ça treuille, ça boit beaucoup de bière, de vin.
C'est bouleillant.
Exactement. Et alors, effectivement, Dom Pierre, ayant entendu un jour cet avocat lui dire « Je vais m'absenter de Moulins parce que j'ai une cousinade », cela va donner à notre nouveau riche, riche de 150 000 euros, une idée.
De faire une zonardade.
Alors, qu'est-ce qu'une zonardade ?
Comme une cousinade, c'est la réunion de cousins portant le même nom, d'habitude. Une zonardade, c'est la réunion de zonards. Puisque, je vous l'ai dit tout à l'heure, le terme de clochard s'est transformé en zonard. Dom Pierre, qui se retrouve à la tête, en possession du moins de quelques milliers d'euros, n'a pourtant pas oublié ses amis d'autrefois.
Disséminés un peu partout en France.
Un peu partout en France. Et il s'est dit, comme Mailleul, l'avocat, organise une cousinade ou participe à une cousinade, moi je vais organiser une zonardade, je vais réunir donc une dizaine de zonards, comme vous le disiez, disséminés un petit peu en France, et on va se retrouver tous sur Moulins, histoire de profiter et peut-être même de dépenser cet argent.
Voilà. Alors c'est le Grinch qui va avoir de l'argent, et Dom Pierre le charge en prenant le train, de manière tout à fait légale. Il ne s'agit pas
de brûler le dur.
De brûler le dur. Il lui dit, va à Nantes, à Rennes, à Lyon. Voilà, il y a un tel à retrouver. Il les décrit, il les dépeint par leurs caractéristiques ou physiques ou leurs activités ou le lieu où ils font la manche. Et au total, il y a 10 personnes concernées. Une femme,
oui,
Brigitte.
Brigitte, qui était à Bordeaux et qui avait été la compagne pendant quelques semaines de Dompierre. Brigitte qui faisait la manche rue Sainte-Catherine à Bordeaux et que Dompierre a délivré les mains de la police alors qu'elle insultait les forces de l'ordre. Mais là, leur vie commune s'est arrêtée lorsque... Brigitte, donc, a préféré, plutôt que faire la manche, monnayer comment dirait-on,
monnayer son, ses charmes, ses charmes et son corps, effectivement.
Donc, et dont Pierre donc, n'était pas partageur en ce domaine et l'avait quitté. Donc. Surtout quand il avait vu qu'elle l'avait fait tatouer, après avoir reçu quelques coups d'un de ses clients, elle avait fait tatouer sur le bas de son ventre « Entrer sans frapper ».
Je rappelle le titre de votre roman Loïc Le Goff, À la fortune du pauvre. On va marquer un nouvel intermède musical. Et puis, moi, ce que je propose à nos éditrices et auditeurs, juste après cette virgule musicale, c'est de découvrir les 10 zonards conviés à cette zonardade à Moulins, sur invitation de Dom Pierre, qui loue effectivement un hôtel avec le soutien de cet avocat, qui est un auxiliaire précieux tout de même pour réaliser les désirs de partage. Parce que c'est ça qui est beau, c'est du don, du partage et de l'humain que veut mettre en avant Dom Pierre. À la fortune du pauvre, c'est le titre du roman de Loïc Le Goff, c'est aux éditions Mutine. Petite pause musicale sur Radio, on se retrouve juste après, nous sommes ensemble jusqu'à midi.
Petite fille, tu bois de l'eau et tu es saoule. Là où tu te noies, tu as beau avoir pied, tu coules. Au port, au port. Et petite folle, c'est pas la brasse, c'est le crawl. Pour la traverser, il t'aurait fallu des épaules. Du corps, du corps. Jamais deux à partir, y en a toujours un pour larguer, l'autre pour l'enquir. Au port, au port. Et puis tu te cruches avec tes pots de confiture. Tu partiras en sucette, mais pas à l'aventure. Au nord, au nord. Si tu le trouves, le ramène pas au cardinal pour qu'il te l'ouvre. Encore, encore. Et puis tu te larves, je suis toi-même et je te parle. Tu es déjà grande, alors lève-toi, sors de ta cale. Au port, au port. Il y a Dieu qui ronfle. Et petite fille devant, il y a les pyramides. Et petite fille derrière, génie de la Bastille. Et petite fille à ta droite, arc de rond. Et petite fille à ta droite, arc de triomphe. Et petite fille devant, il y a les pyramides.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
C'est la bonne ville de Moulins, assoupie sur les bords de l'Allier, qui va connaître des jours de folle animation avec cette zonardade organisée par ce nouveau riche, 150 000 euros, Dom Pierre, qui est au cœur du roman de notre invité À la fortune du pauvre. C'est Loïc Le Goff qui nous accompagne. Alors effectivement, Loïc Le Goff arrive au bout d'un certain temps, mais enfin ils sont convoqués pour début juin et ils sont invités pour un mois à Moulins. Alors, ils arrivent de Nantes, de Rennes, de Lyon et de Bordeaux pour l'unique femme, Brigitte, qui a connu une petite histoire d'amour avec Dom Pierre. Alors là, c'est formidable. Je reviens à une question que je vous ai un peu posée précédemment, Loïc Le Goff, de par votre passé de responsable des communautés Emmaüs de la Nièvre, les noms, surnoms, j'allais dire presque pseudonymes, puisque en fait, ils ont une identité sociale, mais ils ont une sorte d'identité dans la rue, où on se rebaptise. Alors il y a, je les mentionne toutes, bon, il y a Brigitte, mais elle conserve son prénom.
Oui.
Après les autres, c'est assez fandard, on a Saint-Yor, il y a Raymond le Boiteux, bon, il a un pied beau, c'est aussi un grand chanteur, toujours avec la guitare au dos. Il y a un Irlandais, O'Connor. Alors il y a un originaire de Saint-Malo, c'est Charcot.
Oui,
Charcot. Alors Charcot, lui, il a vécu un grave accident de bateau, il a passé 8 heures dans l'eau, c'est un ancien marin.
Il ne veut plus entendre parler de la mer.
Il ne veut plus entendre parler de la mer. D'ailleurs, c'est le Grinch qui va découvrir Saint-Malo et la mer dans le roman. Alors, il y en a un, c'est un militant syndicaliste qui a dû, à mon avis, cogner sur un contremaître dans une usine Citroën, c'est Staline.
Une arène, oui.
Oh, très drôle aussi, parce que dans le bénitier, je crois qu'à un moment, par anticléricalisme, il va verser 2 litres de bière dans le bénitier, sympathique. Colvézi, un ancien de la Légion.
Alors, c'est un personnage que j'ai connu.
Ah oui. Alors, il y a un Kabyle, Momo.
Oui.
Et puis, il y a, je cite, le seul crève la faim obèse.
Bouboule.
C'est Bouboule.
Oui.
Et ce sont. Vous les avez inventés ou là encore, on puise un peu dans profils rencontrés
là, Bouboule, je crois que dans toutes les communautés Emmaüs, il y en avait un.
Oui.
C'est étonnant. Hein.
Et alors, ils sont tous accidents de la vie, problèmes d'alcoolisme, souvent de belles situations sociales, et puis l'alcool qui les fait déchoir.
Oui, il y en a au moins un, donc Bouboule qui avait une belle situation sociale. Colvézi, lui, c'est l'archétype de l'ancien des colonies, l'ancien légionnaire qui ne retrouve plus sa place dans la société. Ça, il y en a eu plein. Hein. Emmaüs, les communautés Emmaüs ont été montées par ce genre de personnages. Quoi. Donc, les exclus à la fois des usines et des sociétés, y en a plein qui se sont retrouvés à la rue. Pareil. Donc, c'est des personnages, même si on tombe pas dans une identification précise, c'est quand même des gens que j'ai connus au cours de mon parcours de responsable de communauté Emmaüs.
Je ne peux m'empêcher tout de même de vous demander ce que vous avez éprouvé lorsque est sorti dans la presse le passé moins brillant, moins glorieux de l'abbé Pierre. Je rappelle que l'abbé Pierre était né à Lyon en 1912, qu'il est mort en 2007 à Paris. Il a été résistant, passeur de famille juive, maquisard, il a aussi été député, et puis cofondateur du mouvement Emmaüs, une organisation qui d'ailleurs existe dans plus de 40 pays, si je me suis bien renseigné, Loïc. Alors, on n'a pas oublié cet appel qu'il a lancé le 1er février 1954 sur les antennes de Radio Luxembourg, qui est devenu ensuite RTL, et ce fameux appel de l'abbé Pierre. Et vous, Loïc, je sais que vous avez vraiment fait partie de l'entourage très proche de l'abbé Pierre et que sa mort a laissé un grand vide. Vous l'aviez dit dans un précédent Wagon Livre sur Radion. Et je voudrais maintenant vous demander comment vous avez vécu ces révélations de l'abbé Pierre. Un choc.
Alors, bon, c'est vrai que j'ai fait partie, on peut dire, du premier cercle. Je le connaissais bien. Il venait me voir souvent. Soit quand j'étais responsable à Nevers, soit lorsque j'étais responsable à Toulouse. Je connaissais, comme beaucoup, les petits travers de l'abbé Pierre. Bon, il ne s'en était pas caché, lui-même. Donc, il a les coups de contrat dans l'engagement, dans certains de ses engagements, en particulier sur le plan sexuel. Bon. Il en avait parlé, il l'avait écrit même. J'avoue que je m'en amusais même. Je n'ai jamais été un croyant. J'ai bouffé du curé même. Et ce côté le rendait presque sympathique. Par contre, même si tout le monde a un jardin secret, et lui il en avait un, mais c'était une jungle. Et ça, je ne connaissais pas. Ça, je ne le savais pas. Et là, j'avoue que j'ai pris une claque, une grande claque. Entre l'abbé Pierre, draguant maladroitement, et l'abbé Pierre ayant un comportement quand même déviant, il y a un fossé quand même. Et ce fossé, là, il a été franchi. Et j'avoue que j'étais plus que déçu. Même encore une fois, si je sais que pour avoir fréquenté beaucoup de gens qui avaient un passé difficile à porter, même si je sais que encore une fois chacun a un jardin secret, lui c'était vraiment une jungle. J'ai pris une claque, oui. Voilà.
Je ne pouvais m'empêcher de vous demander tout de même ce que vous aviez éprouvé. Et c'est triste. Et dommage pour l'image de l'abbé Pierre. Moi aussi, ça m'a fait de la peine. Savoir, par exemple, qu'on a débaptisé certaines places,
oui.
Le fallait-il ? Pas certain non plus.
C'est dommage, certainement, pour l'abbé Pierre, mais ça, c'est lui qui choisit, là. Il a choisi d'être cela. C'est surtout dommage pour le mouvement.
Absolument. Revenons à notre Dom Pierre et à sa zonardade. Donc, nous l'avons dit, les 10 camarades faisant la manche, aussi bien à Nantes, à Rennes ou à Lyon, arrivent à Moulins. Alors, la ville connaît effectivement un petit peu d'agitation de cette bande de joyeux picoleurs. Ça treuille, on boit des bières. Il est même question d'assemblée anarcho. Éthylique. Bon, un petit peu de désordre, bon enfant, on est loin, oui. Tout de même des casseurs de manifestations, bien bien loin.
Oui, on est bien bien loin, les cafés, ils payent leur consommation déjà, donc les cafés de la place d'Allier à Moulins, bon, les reçoivent. Oui. Donc,
et puis Dom Pierre a les moyens.
Dom Pierre a les moyens, il y a... L'open bar.
Et cet hôtel qui est loué pour un mois, voilà. Dans lequel sont hébergés tous les amis de Dom
Pierre. Donc c'est vrai qu'il va y avoir une certaine agitation. La police municipale va s'en émouvoir un petit peu, le conseil municipal aussi. Mais ça reste quand même bon enfant. Ça reste bon enfant. Et même, il y a parfois un regard de sympathie de la population envers ces personnages.
Alors il y a effectivement...
Qui cassent la routine quotidienne.
Absolument. Il y a cette soirée au bord d'Allier, donc ce pique-nique, barbecue. D'ailleurs, surprise, l'avocat...
L'avocat qui a été invité.
A été invité, vient se joindre. Là aussi, belle scène, j'en raconte pas plus. Enfin, la police municipale intervient, l'avocat reprend un peu son...
Sort des buissons
et reprend sa toge et retrouve son rôle, oui. D'homme du prétoire. D'ailleurs, c'est, oui. Amusant parce que vous dites c'est un baveux au milieu de buveux.
C'est pas moi qui le dis, c'est, je crois... Colvetti, qui le dit.
Alors, il y a aussi l'achat, et ça aussi, il y a un petit côté René Chalais, il y a l'achat d'un moyen de locomotion.
Ah oui.
Écologique, en plus.
Ah oui, oui. Oui. Pour transporter à la fois les aliments, mais surtout la boisson nécessaire à cette soirée, ils achètent donc un tricycle, hein, et une remorque qui vont vite remplir pour que cette première soirée donc soit à la hauteur de leur retrouvaille. Voilà. Alors, et c'est vrai que Dom Pierre, pour le remercier, a invité Mareuil,
l'avocat
Mayol, et qui, habitué pourtant en garden party plus qu'à ce genre de soirée, leur fait l'amitié et l'honneur de venir avec eux.
Voilà.
Voilà.
Il va se laisser aller, mais je n'en dis pas plus. Ça se passe derrière les buissons ensuite. Alors, ce tricycle avec cette petite charrette pour transporter la nourriture, alors, va aussi servir pour un pèlerinage. Parce que Dom Pierre...
Ah ben, c'est un vœu.
Est un homme honnête, je crois, moralement. Il avait fait un vœu. Il a fait le vœu que s'il gagnait...
Enfin, s'il rentrait en possession de ce... De ces 150 000 euros,
oui.
Il ferait donc un voyage, il irait à pied à Vichy boire un litre d'eau. Ouais. Ce qui ne lui était pas arrivé depuis longtemps.
Étrange pèlerinage.
Oui, oui.
Donc nous les accompagnons effectivement dans différentes aventures. Oui. Parce que Moulin-Vichy, combien de kilomètres ?
60-70.
Oui. Oui. Mais voilà. À vélo et à pied, les autres sont à côté. Et
voilà. Voilà. Et donc ils vont partir à 4 ou 5 là, pour Vichy. Avec des étapes qui aussi vont être mouvementées, et puis des soirées qui vont pas l'être moins. Quoi.
Oui. Il y a un personnage particulièrement intéressant dans ce roman. C'est un, disons qu'il est sur le point de rentrer dans les ordres, enfin de devenir moine. C'est Thomas, qui effectivement a intégré la communauté de l'abbaye de Sept-Fonds, et qui... croise Dom Pierre et Thomas lui explique que effectivement la communauté religieuse est pleine de contraintes. Et là, on voit bien aussi que quelque part, nos amis de la rue bénéficient d'une grande, grande liberté. Il n'y a pas d'entrave, il n'y a pas de contraintes. Alors que dans la communauté religieuse, bien sûr, il y a des rituels, des prières, des moments de vie commune. Je dirais qu'après, ce que nos amis qui font la manche dans la rue, eux, sont individualiste, alors que Thomas, lui, est dans une structure collective.
Voilà. Hein, c'est une société dans la société.
C'est ça, oui. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que Thomas, à un moment, c'est pas qu'il est dans le doute, il n'a pas renoncé à sa foi, il abandonne un temps l'habit de religieux, il a besoin de retourner.
Il n'est pas défroqué.
Oui.
Il va prendre quelques semaines sabbatiques, disons.
Il retourne. Voilà. Dans la Nièvre, auprès de ses parents qui, je crois, sont agriculteurs.
Oui. Oui. Alors, il faut revenir au début. Il y a en haut de la rue d'Allier, donc une librairie qui s'appelle le Moulin aux Livres.
Authentique.
Authentique, oui. C'est la dernière librairie classique de Moulin. Donc, et on voit régulièrement les moines de l'abbaye de Sept-Fonds, qui installés à Dom Pierre d'ailleurs, qui vont acheter des livres ou commander des livres donc au Moulin aux Lettres. Et ils passent donc dans leur tenue, leur uniforme là. Et c'est un fait réel. Hein. Et donc Dom Pierre faisant la manche rue d'Allier, le frère Thomas s'arrête pour lui discuter avec lui, quoi, pour parler. Et ils font ainsi connaissance. Quoi. Et puis donc, n'ayant pas quelques doutes, mais ayant quelques difficultés peut-être à supporter la discipline de l'abbaye, le frère Thomas donc va quitter pendant quelques temps, va prendre quelques semaines sabbatiques.
Et Dom Pierre s'en amuse un peu, là encore, en faisant référence à un roman de René Fallet.
Ouais.
Un petit mot sur ce roman de René Fallet, paru en 1973, et qui a pour titre « Le braconnier de Dieu ».
Le braconnier de Dieu, qui est peut-être le roman le plus connu de René Fallet, je ne sais pas. Qui raconte l'histoire d'un moine qui est allant voter
pour Pompidou.
Pompidou un dimanche après-midi, rencontra donc, se faisant bronzer sur le pont du navire, enfin de la péniche, donc, rencontra une belle jeune fille, et puis ce qui l'entraînera à quitter donc l'abbaye. Et a mené des différentes aventures autour de Dieu et de Dom Pierre.
Alors, Dom Pierre le taquine frère Thomas en lui disant « Ah, mais vous aussi, vous avez rencontré une femme et vous ne reviendrez pas. » Et non, ce n'est pas le cas de
frère Thomas. C'est le seul livre qu'il avait lu. Il l'avait lu en prison, d'ailleurs.
Oui. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que Frère Thomas lui dit « Ah oui, mais c'est un roman. » Donc, ce qui est écrit dedans, c'est pure invention. Ça n'existe pas. Ce n'est pas vrai. Et puis, il y a cette phrase absolument formidable, cette interrogation de Dom Pierre qui dit à Frère Thomas « Mais alors, pourquoi des gens écrivent des choses qui ne sont pas vraies ?» Alors, vous, Loïc Le Goff, vous en avez écrites des choses qui ne sont pas vraies dans vos précédents romans. Dans « À la fortune du pauvre », je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraies, à travers notamment les parcours, les identités des énergumènes attachants qui figurent dans ce roman. Pourquoi écrire des choses qui ne sont pas vraies, Loïc Le Goff ?
Ah, pourquoi écrit-on ? Ça, c'est...
Ah oui, mais répondez à ma question,
alors. C'est une grande question. Pourquoi écrire des choses qui ne sont pas vraies ? Bah, peut-être qu'on a besoin de s'évader. On a besoin de recréer un monde tel qu'on a envie qu'il soit ou qu'on aimerait qu'il soit. Et on a envie d'être... C'est peut-être prétentieux à dire, mais je crois qu'en tout homme, on a envie d'être créateur aussi.
Oui.
On a envie de... on a envie d'être à la fois créateur et... Et on a envie de s'évader aussi. Je crois que c'est peut-être banal ce que je dis, mais la raison d'écrire, la raison de créer, c'est peut-être ça aussi.
Et puis les livres, il en est question, il y a ce rappel historique à la Révolution française. Il y a eu pillage de la remarquable bibliothèque de l'abbaye de Sept-Fonds, des ouvrages ont disparu.
Là, vous n'inventez rien.
Là, vous n'inventez rien, effectivement. Et puis dans le roman... certains de ces livres sont retrouvés. Bien sûr, Frère Thomas aimerait les ramener dans la...
Alors, ils sont retrouvés par... Enfin, ils sont retrouvés. C'est aussi un autre personnage, donc, Cathy, qui existe, qui tient un magasin en face du Moulin aux Lettres, à Moulins. Là, c'est un magasin d'antiquités, de décorations. Mais je n'ai rien inventé. Hein,
d'accord, hein. D'accord.
Donc, au cours d'une visite chez quelqu'un qui voulait lui vendre quelques bibelots, elle voit donc des livres qui avaient appartenu donc à l'abbaye de Sept-Fonds, donc, et qui faisaient partie de leurs biens jusqu'à la Révolution, là où tout a été dispersé, volé. Et c'est vrai, il y a une grosse partie de la bibliothèque de Sept-Fonds qui a disparu à cette époque.
Et puis, effectivement, il y a un épisode tragique, fatal, je n'en dis pas plus, mais la solution... Je cite votre roman, page 122, Loïc Le Goff. « Nous allons sécher nos larmes en mouillant nos gosiers ». C'est d'ailleurs bientôt l'heure de l'apéritif et c'est aussi la fin de notre émission, cher Loïc Le Goff. Je rappelle le titre du roman que vous êtes venu présenter et défendre devant notre micro, et cela nous a fait grand plaisir, « À la fortune du pauvre » aux éditions Mutine de notre ami Loïc Le Goff qui a passé 7 heures avec nous sur Radion. Bon congé de fin de semaine, Loïc Le Goff,
merci.
Et merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci.
Cela nous réjouit.
Merci de m'avoir invité.
Eh bien écoutez, je salue encore...
J'espère que les lecteurs prendront autant de plaisir à lire ce livre que moi j'en ai pris à l'écrire.
Mais j'en ai eu beaucoup à vous lire, beaucoup de réflexions, beaucoup de drôlerie, beaucoup de tendresse, d'humour aussi, avec ce monde des exclus que vous avez bien connu, que vous respectez et auquel il faut aussi penser, car je crains que les choses ne s'améliorent peut-être pas forcément, l'avenir étant parfois un petit peu désespérant. Un petit peu désespérant. Cette émission est disponible d'ici quelques heures en podcast sur le site yannickpetit.fr et je vous donne rendez-vous samedi prochain, toujours à 11h sur Radion, pour la diffusion d'une conférence consacrée à la restauration de la basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay. C'est avec Lydivine Saunier, que nous avons enregistré courant juillet lors d'un événement qui était organisé par l'Association des Amis de Vézelay. Bon congé de fin de semaine à toutes et à tous. Au revoir et j'embrasse Marie-Thérèse Mutin des éditions Mutiny.
Moi aussi.